Bonjour Louisa.
Bonjour René.
Voilà, donc on va présenter aujourd'hui quelque chose qui n'est pas courant, c'est une partie du cinéma chinois.
Oui, exactement. Bonne partie même.
Donc vous avez édité un livre qui présente la quatrième génération de cinéma chinois?
Tout à fait. Oui, c'est une génération qui s'exprime pendant une période assez courte finalement. Grosso modo, depuis la mort de Mao jusqu'au début, milieu des années 90, même un peu avant.
Peut-être qu'on peut présenter ce qui s'est passé avant la quatrième génération et après, on va dire, avec Zhang Yimou et d'autres qui sont arrivés, qu'est-ce qui a changé? Donc voilà, on va faire un petit peu ce panorama avant d'approfondir sur la quatrième génération.
Bien sûr, c'est normal. Ben, déjà, on va commencer par dire que ce terme génération à travers lequel on définit les différentes phases du parcours du cinéma chinois, c'est un terme qui à l'origine n'était pas voulu par les Chinois. Ce sont les Occidentaux qui lui ont attribué cela afin de se retrouver à travers parmi les différents styles. Donc, nous avons un début, une première génération qui va du tout début de la naissance du cinéma chinois jusqu'aux années 20, grosso modo. Il faut dire que le cinéma chinois est un cinéma très ancien, puisque le premier film est identifié comme La montagne Tingyun. Ce n'est pas un long métrage, hein, bien évidemment, mais c'est un film, disons, qui est constitué par une série d'enregistrements. Et ces enregistrements, donc, datent de 1905. D'ailleurs, l'année dernière, nous avons fêté les 120 ans du cinéma chinois. Et c'est encore un cinéma qui, forcément, est tout au début. Le cinéma est un art étranger pour la Chine. Donc, il s'exprime même à travers le cinéma en faisant, en mettant en scène ce que la Chine connaît le mieux, c'est-à-dire l'opéra, le théâtre. Ce n'est d'ailleurs pas étonnant que le premier film chinois, c'est, comme je vous disais, une série d'enregistrements d'un opéra chinois. Donc, grosso modo, ça c'est la première génération qui commence patiemment à établir un style entre tout ce qu'elle voit et reçoit de l'Occident et son patrimoine culturel qui est énorme. Ensuite, la deuxième, c'est la génération qui voit vraiment le cinéma chinois se consolider au point que il commence à exprimer ses meilleurs films et c'est la phase des années 30-40, donc la phase du cinéma réaliste, le cinéma qui finalement reflète la vie en Chine à l'époque, à cette époque assez dramatique des années 30, où la Chine est en lutte contre tout, est en lutte. Déjà, elle débute cette guerre civile entre le Parti nationaliste et le Parti communiste, et lutte qui va, une guerre civile qui va se conclure avec la victoire de Mao Zedong. Donc, les films après de la phase maoïste, ce sont les films du réalisme socialiste, donc les films de la troisième génération. Et nous arrivons à la quatrième, qui est celle qui est chargé de remettre le cinéma sur les rails de la narration, étant donné que pendant la période maoïste, il s'agit surtout de cinéma de propagande, de cinéma où l'idéologie prime et donc le cinéma lui-même est un art sous influence. Pour arriver ensuite à la cinquième, qui est la génération de Jaimo, Chen Gege, les premiers cinéastes chinois que l'Occident connaît.
Donc, il y avait des grands studios déjà, on va dire, dans les années 50, 60, 70. Je pense notamment au studio de Xi'an.
Oui, de toute façon, les studios, alors si vous voulez, les studios, déjà pendant les années 30, Il y avait des studios, des sociétés cinématographiques dans la ville de Shanghai. Il y en avait un nombre considérable. Et tous ces studios privés ont pu survivre même après la guerre contre le Japon. Ils avaient de toute façon continué à tourner sous l'influence japonaise, mais pendant toute la période de la guerre, 39-45, ils avaient continué à tourner. Mais ces studios privés vont disparaître au moment où Mao Zedong prend le pouvoir, parce que déjà 2-3 ans après la prise du pouvoir, donc entre 1952-53, désormais la production et la distribution vont être nationalisées en Chine. Il va y avoir toute une restructuration, une réorganisation avec les studios d'État, le studio de Pékin, de Xi'an, etc., etc.
Ce cinéma, pour un occidental, est-ce qu'il paraît étrange aujourd'hui?
Alors, déjà, plus qu'étrange, c'est un cinéma qui est différent par rapport. Alors, ça dépend un peu des époques, vous voyez. Alors, moi, je trouve que le cinéma des années 30, au contraire, c'est un cinéma qui est très, très proche de la veine néoréaliste italienne. D'ailleurs, quand la Chine a décidé enfin de montrer sa production cinématographique, qui avait été jusque-là bien, bien gardée. Donc, au moment où la Chine s'ouvre, au début des années 80, les archives de Pékin décident de faire connaître la production cinématographique, et la première rétrospective importante de films chinois se tient à Turin, en Italie, en 1982. Et les critiques italiens à l'époque n'en reviennent pas parce qu'ils disent c'est quand même incroyable, la Chine a inventé le néoréalisme 10 ans avant nous. Donc ce sont des films, les films de cette époque-là qui sont tout à fait, on n'est pas dépaysé à les regardant. Les films de l'époque maoïste, ce sont des films de propagande, donc forcément, en effet, ce sont des films étranges, comme vous dites, par rapport à un public occidental qui n'est pas trop habitué, ou tout de moins à certains codes, parce que même en Occident, bien évidemment, il y a un cinéma, il y avait et il y a un cinéma de propagande. Et puis, le cinéma qui est exprimé après, donc entre les années 70 et 90, eh bien, c'est un cinéma qui reflète certaines conditions, certaines situations typiquement chinoises, mais les codes de la narration globalement ne diffèrent pas trop de notre cinéma à nous. Bien évidemment, les contenus ne sont pas les mêmes. Certains langages ne sont pas les mêmes non plus, parce que le cinéma chinois utilise beaucoup les métaphores, le symbolisme, etc. Et puis, à partir des années 90, c'est un cinéma plus urbain, c'est un cinéma qui est même plus proche des jeunes, de la réalité des jeunes, et donc un cinéma qui, tout en étant encore très chinois, et devient quand même un cinéma un peu plus universel, avec des thèmes un peu plus universels, des réalités qui peuvent être vécues aussi bien par les jeunes de Pékin que par les jeunes de Paris ou d'autres endroits du monde.
Alors, les films qui sont mis en valeur dans nos festivals occidentaux, hein,
Oui.
sont un peu différents de ceux que le grand public va voir en Chine. Souvent, il y a des commandes pratiquement qui sont assez fléchées sur ce que veulent distribuer les sociétés en France, par exemple, ou à Berlin.
Oui, parce que finalement, si vous voulez déjà, il faut dire que déjà en Chine, le panorama, quoique il commence à s'unifier un tout petit peu maintenant, mais pendant les 20 premières années du nouveau millénaire, en commençant des années 90, la cinématographie chinoise s'est quand même développée sur la base d'une dichotomie bien claires. Donc, d'une part, un cinéma plus officiel, approuvé par le bureau de la censure et compagnie, et d'autre part, un cinéma indépendant qui s'est créé dans des structures indépendantes de l'État, et donc un cinéma qui, forcément, à ce moment-là, a été bâti en dehors des sentiers battus, et donc il n'a pas montré le scénario et le film à la censure. Donc, une production complètement indépendante qui a vécu grâce beaucoup, d'ailleurs, au soutien des festivals internationaux. C'est la raison pour laquelle, en effet, pendant tout ce temps, ce que le public chinois a vu est bien différent des films chinois que nous voyons ici. Il y a même eu une période où des réalisateurs comme Jia Zhangke et Wang Bin, très très connus chez nous, ne l'étaient pas presque ou pas du tout en Chine. Vous voyez?
Alors c'est vrai que vu de chez nous, quand on va voir ces films-là, on les trouve remarquables. Et quand on va en Chine, on voit d'autres films qui peuvent être aussi remarquables dans d'autres domaines, on va dire, peut-être par la façon de mettre en scène, par les effets spéciaux, etc.
Oui, parce que de toute façon, vous voyez, alors, c'est une production un peu plus officielle qui ne veut pas dire que tout ce qui est fait est de propagande ou est quelque chose de qualité discutable. Disons que c'est quelque chose de différent. Aujourd'hui, on ne fait plus de différence entre indépendant et officiel parce que, bon, déjà d'indépendant, il n'existe plus grand-chose. Aujourd'hui, on fait plutôt une différence entre ce qui est mainstream, main melody, comme on dit, donc ce qui est plus grand public, voilà, on va dire, et un cinéma d'auteur. Donc, le cinéma grand public, c'est un cinéma qui se base beaucoup sur les effets spéciaux, sur des histoires un peu plus, voire même des films d'action, hein, qui avant n'existaient pas trop en Chine, qui se développent énormément aujourd'hui. Donc, des films qui peuvent avoir leur qualité, et qui peuvent plaire, mais qui sont incontestablement différents des films d'auteur. Ou alors, il y a des films qui ont un contexte tellement chinois qui forcément ne pourraient pas être distribués ici parce que le public ne les comprendrait pas.
Alors, c'est étonnant parce qu'il y a un an, 2 ans, 3 ans, j'ai vu des films qui m'ont vraiment marqué, qui sont plus à visée pédagogique ou morale.
Oui.
Je vais donner deux exemples. Un film qui s'intéresse aux porteurs de Chongqing. Vous voyez, en Chine,
Oui.
à
Oui.
Chongqing, il y a des gens qui portent dans la ville parce qu'il
Oui.
n'y a que des côtes, on monte tout le temps et puis il faut ramener les gens qui viennent du bateau, on leur prend leurs affaires parce que c'est impossible quasiment à monter aux escaliers. Donc il y a un hommage à cette corporation, on va dire, qui est
Oui,
fait au
oui.
travers de ce film. Donc c'est une façon de valoriser des gens, mais en même temps en mettant ça dans une histoire, une certaine narration qui est quand même bien ficelée. Et à la fin, on voit l'aspect moraliste, etc. Et puis il y a un deuxième film qui m'a beaucoup choqué, beaucoup marqué et qui m'a beaucoup intéressé. Et on parle seulement maintenant de... C'est plus qu'un fait divers, ce sont ces étudiants qui sont attirés à l'extérieur de la Chine pour travailler comme des esclaves, on va dire, dans des sortes de fermes à produire du data et à trafiquer tout ce qui est Internet, etc. Et là, maintenant, on en parle un peu en France, mais ce film-là, ça fait 3 ans que je l'ai vu, et il
Oui.
alertait les jeunes sur ces risques-là d'être attirés par
Tout à fait.
des miroirs, on va dire, aux alouettes, quoi.
Tout à fait, tout à fait, parce que c'est vrai qu'il y a quand même comme je disais, c'est un cinéma qu'aujourd'hui, même si on ne peut pas le qualifier, déjà, partons du fait que la production s'est vraiment énormément diversifiée, hein, par rapport à avant. Il y a beaucoup de genres, il y a même des comédies, il y a des films d'action, et il y a ce que vous dites, effectivement. Finalement, il y a des films qui montrent les risques d'un monde qui est en train de se transformer. Et donc, je pense que vous parliez sans doute de No More Bets de Auchin, qui effectivement était très intéressant par rapport au risque de tout ce qui est le monde cyber et compagnie. Donc, c'est très intéressant. D'ailleurs, il a eu beaucoup de succès, ce film en Chine.
Oui, donc dénoncer ces mafias qui s'exercent à l'extérieur de la Chine
Tout à
et
fait.
sur laquelle la Chine n'a pas le contrôle vu que c'est un pays étranger, hein,
Tout
évidemment.
à fait, tout à fait. Oui. Non, non, c'est très. Donc, finalement, vous voyez, aujourd'hui, on a une programmation enfin, qui s'est beaucoup. Il y en a vraiment un peu pour tous les goûts. Bon, après, il faut dire aussi que. Il y a les superproductions et qui sont très souvent aussi financées par l'État et qui sont animées par un esprit patriotique nationaliste et vraiment un peu dans la même mouvance presque que les films de propagande des années 50. Et puis vous avez certains films avec un propos un peu moraliste, mais qui peuvent être plus des comédies dramatiques ou plus des films, on va dire, qui partent de l'actualité et qui peuvent avoir un récit qui finalement tient bien la route. Enfin, il y a, par exemple, il y a eu un film comme Sister qui n'est pas arrivé ici en Occident, qui examine un peu les questions du traditionnalisme dans la société chinoise, la piété filiale, est-ce que encore aujourd'hui les enfants peuvent, avec le rythme de vie qu'ils ont, peuvent s'occuper de leurs parents ou alors, comme c'est le cas dans le film, de cette jeune fille qui doit s'occuper de son demi-frère plus jeune. Et forcément, c'est encore plus difficile pour les femmes. Et donc, ça a suscité un véritable débat sur les valeurs traditionnelles, le rôle des femmes en Chine. Donc, il y a un peu de tout. Mais comme je disais, tout n'est pas connu ici, parce que s'il y a des films qui peuvent véhiculer des valeurs un peu plus universelles et des discussions sur des thèmes qui sont à peu près les mêmes chez nous aussi, il y en a d'autres qui restent quand même profondément chinois et que donc ils seraient assez incompréhensibles aux yeux des Occidentaux. Voilà pourquoi très souvent on a des films qui se basent énormément sur les effets spéciaux parce que bon, ces films à grand spectacle, peu importe le contenu, ont toujours une partie de public en France, en Italie, aux États-Unis, ailleurs, qui sont preneurs.
Alors, même dans les complexes de cinéma commerciaux, hein, on peut trouver parfois des films d'auteur, ce qu'on appelle ici soit du cinéma indépendant, soit de l'art et essai.
Alors, oui, mais il y en a vraiment. Alors, des films indépendants, non. Donc, il n'y en a pas parce ils ne passent pas la censure. Donc, forcément, un film pour être visible en Chine doit avoir passé la censure. Et d'ailleurs, même les films aujourd'hui qui arrivent chez nous doivent avoir passé la censure aussi, ce
Oui.
qui n'était pas le cas jusqu'à il y a quelques années. Donc, parce que sinon, le producteur va prendre une sacrée amende. Et c'est justement ce qu'ils veulent éviter. En revanche, vous pouvez avoir des films un peu plus artistiques qui commencent à être mieux connus et appréciés en Chine. Je fais l'exemple du dernier film de Bigan, qui d'ailleurs est encore dans nos salles aujourd'hui en France, Résurrection, le film chinois qui a été en compétition au Festival de Cannes l'année dernière et qui est un film assez complexe, hein, je dois dire. C'est pas vraiment du tout même un film grand public, mais qui est bien ficelé, qui reprend beaucoup le réalisme magique qui est très à la mode aujourd'hui, et avec un grand côté onirique, une superbe mise en scène. Eh bien, c'est un film qui a interpellé énormément le public occidental, mais qui a plu beaucoup en Chine aussi, ce qui est une chose vraiment rare. Donc, c'est vrai, on commence à avoir aussi des films qu'on peut qualifier d'art et d'essai qui peuvent avoir un peu plus de succès en Chine par rapport à avant où ils étaient complètement snobés.
Alors, moi qui ai un certain âge, j'ai bien connu dans les années 60, 70, le moment où le cinéma en France était obligé d'être adoubé par l'office catholique, etc. Hein. Il y avait des
Oui.
autorisations nécessaires en France.
Oui. Bah, tout le monde est pays, hein, comme on dit. Sauf que effectivement, bon, chez nous, c'était peut-être un peu différent. Et aujourd'hui, en Chine, c'est vraiment, c'est très. On est à nouveau dans un contrôle très ficelé. Et c'est vrai que si beaucoup de films avant pouvait être vu grâce aux festivals internationaux et la Chine avait une politique du style du moment où ils ne sont pas montrés chez nous, qu'on ne donne pas l'autorisation, ailleurs ils font ce qu'ils veulent. Mais non, aujourd'hui ce n'est plus du tout comme ça. Ce qui est montré à l'étranger doit être aussi d'abord doit être supervisé et surtout approuvé par le bureau de la censure. Il y a le fameux Lumpia, comme on appelle, hein, c'est la marque du dragon hein, qu'on voit au début de chaque film chinois, le dragon jaune sur un fond vert.
Vert, oui.
Et c'est l'approbation, c'est la marque, le signe de l'approbation du bureau de la censure. Et tous les films qui sont montrés chez nous aujourd'hui doivent avoir le Lumpia qui montre que le film peut très bien être vu ici, mais très bien être vu en Chine aussi.
Donc, Luisa Prudentino, vous avez réalisé un livre sur la quatrième génération du cinéma chinois. Hein. Ça s'appelle Le cinéma chinois, histoire de la quatrième génération. Il est sorti, là. Qu'est-ce que cette génération a vécu et est-ce qu'elle a eu des chaos, enfin, des périodes très différentes dans sa capacité à réaliser les choses?
Oui, c'est une génération vraiment un peu atypique et comme je dis toujours, on a voulu écrire ce livre, Vincent Poli et moi-même, qui en effet, il est sorti depuis 2 mois à peu près et aux éditions Okno et on a voulu écrire pour réparer une injustice. Pourquoi? Parce que cette génération est une génération qui n'a vraiment pas eu de chance. C'est la génération d'ailleurs qui est la première génération en Chine à avoir eu une formation académique. Donc, elle a étudié vraiment le cinéma dans les instituts de cinéma, les académies, etc. Et au moment où ils ont pu avoir le diplôme, hélas, la révolution culturelle éclate en Chine. Toute activité cinématographique est considérablement réduite, voire même réduite au néant, puisqu'il n'y a que des opéras filmés, il y en a 8 en tout, et donc 8 opéras, 8 films de propagande extrême vus par 800 millions de Chinois à l'époque, et ça au moins jusqu'à entre 66 et 72, c'est tout ce qu'il va y avoir, et de toute façon, très péniblement, l'industrie cinématographique reprend jusqu'à la mort de Mao. C'est à la mort de Mao qu'enfin les choses reprennent. Et la génération qui s'était formée anciennement reprend le flambeau, hérite de cette cinématographie complètement catastrophée, complètement dictée par l'idéologie, et alors essaye de la remettre un peu sur les rails de la narration, essaye de porter à nouveau à l'écran des scènes de vie vécues, quotidiennes, les histoires simples de personnes simples, comme ils aiment eux-mêmes dire, et des personnes qui ont beaucoup souffert pendant la révolution culturelle. Parce qu'il n'y a pas eu une seule famille qui n'a pas été touchée dans ces 10 ans de désastre. Et donc, ce n'est pas étonnant que ce cinéma est appelé aussi cinéma des cicatrices. Donc, ils font tout pour que l'individu se réapproprie l'écran, pour que la narration puisse enfin se déployer comme avant, libre de toute idéologie, libre surtout de toute propagande. Et quand enfin ils arrivent à ce but, ils se font voler la vedette par la génération de jeunes cinéastes qu'ils ont contribué eux-mêmes à former, parce qu'ils ont travaillé énormément, ces gens-là. Ils ont travaillé en tant que scénaristes, metteurs en scène, etc. Et ils ont aussi enseigné dans les académies, enseigné dans les instituts de cinéma, donc former les jeunes, la nouvelle génération de cinéastes, qui est, elle, beaucoup plus en rupture avec le passé par rapport à leurs prédécesseurs. Ils ont aussi une production sans doute un peu plus, qui fait un tout petit peu plus un clin d'œil au cinéma occidental. Et donc, c'est une génération qui va lancer le cinéma chinois dans une orbite internationale et va faire complètement, presque disparaître la génération d'avant. Donc, c'est une génération qui s'est exprimée vraiment pendant pas si longtemps que ça, une génération à laquelle le cinéma chinois doit énormément, doit vraiment beaucoup, une génération qui a beaucoup innové du point de vue du contenu, du point de vue de la forme, et dont on n'a jamais parlé. La preuve, c'est que en France, c'est le seul ouvrage entièrement consacré à cette génération. On en parle, bien évidemment, on en a parlé en Chine, on en a parlé dans quelques autres pays, elle a fait l'objet d'articles spécialisés du secteur, mais pas d'ouvrage entier. Et ce sont vraiment des personnes, c'est vraiment une génération sacrifiée, une génération qui a tellement donné et qui n'a pas été reconnue. Donc, on a pensé que leur travail méritait absolument d'être mis en évidence et d'être salué parce qu'ils ont accompli un miracle.
Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer un festival autour de ces films, avec bien sûr des commentaires, des explications, des débats autour de ça?
Ah ben moi je le souhaite, hein, je le souhaite vraiment même vivement. Alors il y a eu en 2018 une très très belle section consacrée à la quatrième génération au Festival de Rotterdam. Dans certains festivals, on reprend de temps en temps quelques films et le fait de vouloir consacrer un entier festival à la quatrième génération, moi je serais la plus heureuse. C'est possible et je pense que vraiment le public découvrirait des films très étonnants. Surtout que c'est aussi, bon, il s'exprime un tout petit peu, vous voyez, c'est difficile hein, de se libérer de beaucoup d'années de socialisme, etc. Mais sous cette forme un peu académique et un peu soviétique pour certains aspects, un minima parti, mais un parti minimal, et en fait, il y a parfois des accents absolument surprenants, des phrases incroyables, où les protagonistes s'expriment de façon même assez libre sur tout ce qu'ils ont dû endurer pendant la révolution culturelle. Il y a sans doute plus de liberté, je dirais même, de ton et d'expression qu'aujourd'hui.
Est-ce que ce serait possible, sinon facile, pour une université qui a un cinéma intégré, par exemple, de présenter ce genre de festival?
Oui, moi je pense que c'est tout à fait possible. Après, il faut. Vous voyez, la grande difficulté réside dans le fait que ce sont des films qu'il faut. Il faut voir qui détient encore les droits, parce que bon, ce sont des films un peu anciens. Des films qui ont tourné, il y en a qui ont tourné un peu dans certains festivals avant. Donc, on pourrait peut-être récupérer le sous-titrage et peut-être pas. Donc, ce sont plus ces aspects-là qui sont un peu plus compliqués. Mais sinon, l'idée est une idée formidable. Et il faut trouver les bonnes personnes, la bonne organisation, pour pouvoir le réaliser. Mais moi, je serais partante.
Alors, c'est vrai que sur Par exemple, YouTube, on retrouve hein, des films chinois
Oui.
parfois étonnants et qu'on ne trouve peut-être pas dans les réseaux, dans les circuits commerciaux
Vous
de
avez
distribution.
raison. Vous avez tout à fait raison. YouTube, c'est incroyable, c'est tout à fait étonnant. D'ailleurs, si quand on connaît, le problème, c'est qu'il faut connaître le chinois. Quand on connaît le chinois et on tape le titre en chinois, ben vous retrouvez quasiment tout, hein. Vraiment quasiment tout. Ces films, ils sont tous sur YouTube, mais il faut connaître le chinois. Si on veut des films sous-titrés, bon, avec un peu de chance, vous trouvez quelques films sous-titrés anglais, sous-titrés français. Sur YouTube, il n'y en a pas. Après, il y a des organisations en France, notamment le Centre de documentation de cinéma chinois de Marie-Claire Kikmel, qui fut parmi les pionnières de la diffusion du cinéma chinois en France. Et ce centre, en effet, a fait un travail remarquable par rapport à certains films, même de sous-titrage. Et donc, il faudrait s'appuyer un peu à des organisations comme ça pour pouvoir les montrer. Le gros problème est dans quel état trouver les copies, comment il faut les montrer et comment les sous-titrer. Voilà, c'est un problème, c'est ça le problème. Forcément, après, il y a un problème de coût lié à tout ça, mais je pense que c'est quelque chose, enfin, ça vaut la peine en tout cas. Trouver un financement pour ça vaut la peine.
Alors, ce qu'on peut peut-être faire pour Onde de Chine, hein, ce serait sur le site web ondedechine.fr, de faire une petite liste de films, à la fois avec un titre en chinois et une traduction en français, et le lien vers des vidéos YouTube qui correspondraient.
Oui, on peut faire déjà faire avoir les liens des trois films, par exemple, dont nous parlons de façon détaillée. Bon, on parle de beaucoup de films, bien évidemment, dans le livre, mais après une première partie consacrée d'abord à tout ce qui a amené à la quatrième génération, donc ce qu'il y a eu avant, donc après les caractéristiques de la génération et tout ça, la deuxième partie comprend une partie, une analyse critique de trois films phares fondamentaux tournés tous les trois en 1980 et qui sont vraiment caractéristiques du style de cette génération. Déjà, on peut fournir les liens de ces trois films qui sont visibles exactement sur YouTube, mais qui ne sont pas sous-titrés, mais qui sont visibles, qui donnent déjà une idée. Après, on peut fournir encore deux ou trois titres de films un peu emblématiques qui sont cités dans l'ouvrage. Et voilà, au moins, ça donne un complément, on va dire, par rapport à ce qu'on raconte.
Voilà, ça permettrait de compléter cette émission pour donner des rendez-vous possibles pour le public. Et peut-être que d'ici là, il y aura des progrès dans les traductions sur YouTube qui permettront d'en comprendre un peu plus le sens.
On l'espère en tout cas.
Bien, merci Luisa Prudentino. On va quand même rappeler que vous présentez dans le cadre de Amitié franco-chinoise une conférence avec la présentation de ce livre au public lillois.
Oui, et avec en particulier une conférence qui va mettre en évidence le rôle de la femme dans le cinéma chinois, qui est toujours un rôle très emblématique, et on parlera bien évidemment également des femmes réalisatrices de la quatrième génération et pas que. Et donc, on essayera de faire un peu le point sur ce cinéma formidable à travers les figures féminines.
Voilà, donc ce sera jeudi 12 février à 19h à Voyageurs du Monde.
Tout à fait, c'est tout à fait ça, à Lille.
Et il faut réserver, je pense.
Il vaut mieux. Il vaut
Ouais.
mieux réserver sa place, absolument.
Donc c'est à Amitié franco-chinoise la réservation qui se fait, hein. Voilà, bien merci pour toutes ces informations très riches. Et
C'est moi.
puis vive le cinéma chinois.
Vive le cinéma chinois et j'espère vous voir nombreux jeudi 12 à Lille.
Merci Louisa.
Merci, au revoir René.